France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bojan Zulfikar Pašić. Je suis né le 2 février 1968 à Belgrade, en Yougoslavie, et je suis musicien.
Alors Bojan, est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez joué, disons en public, disons dehors, dans un restaurant, un club, je ne sais pas, mais pour un public autre que votre oncle, vos parents, les cousins et les copains du cousin qui jouaient
Mon premier concert, vrai concert, donc à l'école devant le public, je jouais la batterie.
Ah bon ?
Parce que la batterie, en fait, c'est l'instrument que j'ai tellement écouté dans la musique que j'aimais, que... La première fois où j'ai eu l'occasion de m'asseoir sur une vraie batterie, c'était la veille du concert qu'on faisait. Et je me rappelle que je me suis mis, comment ça marche? Ah, il faut croiser les mains, paf. Mais le fait que j'avais tellement la batterie dans les oreilles, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis prêt. Ouais. Et le lendemain, effectivement, on a fait le concert, c'était n'importe quoi. Les baguettes qui volaient partout, j'avais les ampoules sur les doigts, le pied qui tremblait sur la grosse caisse qui faisait qu'on entendait tout le temps la grosse caisse. C'est pas grave, c'était voilà. un grand événement pour moi, effectivement. Je me rappelle, en fait, il y a un autre grand événement qui est arrivé quelque part au milieu des années 70, où j'étais déjà bien mordu dans la musique, c'est-à-dire que je partais à l'école avec... J'avais un truc avec les casques, donc avant que le Walkman existe. J'écoutais la musique en allant à l'école. Au retour de l'école, je mettais la musique, je mettais au piano, et toute l'après-midi, c'était la musique. Et donc, quelque part, vers 1976, 77, quelque chose comme ça, le génie de Manfred Eicher a fait que...
Et donc, le patron d'ECM.
Le patron de ECM. Il a concocté une compilation d'environ 10 albums, comme un coffret, qu'il a créé, je pense, exprès pour la Yougoslavie. Ce que c'était, en comparaison avec d'autres pays du bloc de l'Est, chez nous, donc, les frontières ont été ouvertes. Donc voilà, on pouvait voyager. C'était quand même la chose, la plus grosse différence.
Ah oui, c'était pas la Bulgarie, c'était pas l'Allemagne de l'Est.
Exact,
pas la
tous les autres pays nous ont regardé comme si on était les Américains.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Ce temps est bien révolu. Je reviens vers ce coffret ECM, juste pour terminer. Donc à l'intérieur, il y a eu Köln Concert.
Köln Concert, c'est donc
de Keith Jarrett. Oui. Off-Ramp de Pat Metheny Group Travels. Oregon. Nana Vasconcelos aussi, des albums. Enfin bref, et là, c'était la grosse découverte de ce son-là qui était beaucoup plus intéressant pour moi que le blues d'Oscar Peterson et le jazz aimé par mes parents, quoi. À ce moment-là, il y a un événement majeur qui arrive, je crois que c'était en 81, et c'est que ce groupe-là de Pat Metheny, donc le groupe avec Lyle Mace, Steve Rodby, Nana Vasconcelos était là, donc ils avaient quelques jours off, ils étaient en tournée finalement, qui a donné naissance à cet double album Pat Metheny Group Travels, et donc ils se sont proposés à venir gratuitement à Belgrade. Ils étaient à l'hôtel qui est à 300 mètres de chez moi. Et ce concert-là a changé complètement la scène musicale à Belgrade. Donc nous, on arrive au concert qui a duré 3h30. Et on est tous partis, mais avec les yeux et la tête complètement explosés, parce que c'était la musique instrumentale, mais pas que, très mélodique, avec l'improvisation, avec un son qu'on n'a jamais entendu dans aucune des salles à Belgrade, avec 15 guitares changées, avec tous les synthés dont je rêvais. Si vous voulez, c'était vraiment le rêve qui se déroulait devant nos yeux. Et c'est ça qui a renforcé définitivement mon envie de continuer dans cette direction-là. Donc là, j'ai
13 ans.
À ce moment-là, donc on a fait notre premier groupe avec les amis de l'école, avec un bassiste, on a trouvé un batteur, avec mon frère. Donc on était quatre, et puis on a commencé à jouer, j'ai commencé à composer, sans aucune inhibition, complexe, etc. Parce que ma foi, j'étais encouragé par cette belle musique, j'étais jeune, et puis rien ne pouvait m'arrêter. Donc on a commencé à composer un peu les bossa nova, un peu dans ces directions-là, mais la musique plutôt instrumentale. Quelques-uns des morceaux ont terminé aussi avec les paroles, qu'on chantait soit moi, soit mon frère. Et c'est jamais parti beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas, ça nous remplissait la joie. Et c'est là que donc on s'est retrouvé dans cette situation à répéter avec les groupes, à monter des répertoires, mais on faisait tout ça oralement.
Malgré le fait. Le groupe, il avait un nom.
Sia.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Rien. On a juste trouvé que ça sonne. Quoi, là, voilà. La chose qui nous a jamais traversé l'esprit, c'était que cette musique-là pouvait également être notée sur le papier. Parce que j'ai tellement séparé jusque-là, dans ma tête, la musique classique, c'était lié à la partition, et tout le reste, c'était lié au fait qu'on l'apprenait à l'oreille. Au point où nos répétitions, ça nous prenait toute la journée pour monter un seul morceau. Il disait, fa dièse. Alors maintenant, si. Non, c'est là, tu vois, après le break de la batterie. Ah, ok. Donc on l'apprenait vraiment par cœur, et puis on se voyait pas pendant 3 jours, et tout le monde oubliait tout, et puis on recommençait. Donc c'est ça qui m'ennuyait un peu. Qu'on a commencé un peu à jouer aussi, les petits concerts dans les écoles, etc., etc.
Donc vous avez 13 ans ou un peu plus. Vous rêvez déjà d'être musicien ou pas du tout?
C'était hors de question de faire quoi que ce soit d'autre. Donc le rêve est devenu réalité assez rapidement.
Oui. Vous gagnez un peu d'argent avec tout ça?
Non, c'était surtout pour les filles.
Ça marchait.
Ça, par contre, c'était effectivement quelque chose qui a joué un rôle très important, n'est-ce pas? Déjà, dans mes années piano, lors des anniversaires, quand je me mettais à jouer du piano, donc il y avait quand même tout de suite quelques filles qui se mettaient autour de moi. Je me suis dit, ah ok, c'est pas mal ça. Et donc, une fois monté sur scène, effectivement, de ce côté-là, c'était très intéressant. J'avais un autre rêve. Le rêve, c'était d'avoir un Fender Rhodes, donc le piano Fender, le piano électrique, que j'ai entendu la première fois, je me rappelle très bien. En fait, j'ai pas connecté avec les Beatles, malgré le fait que c'était Billy Preston qui jouait déjà le Rhodes sur Get Back. Mais pour moi, c'était le début d'un disque de Dude de Quincy Jones. Et le premier morceau s'appelle Stuff Like That avec Chaka Khan et Steve Gadd. Et là, ça commençait sur le Rhodes. Et ça m'a fait, c'est quoi cet instrument? Donc voilà, après, pendant l'été, je sillonnais tous les hôtels au bord de la mer. Parce qu'à l'époque, chaque hôtel avait un vrai groupe qui jouait pour faire danser des gens. Et souvent, les gars, ils avaient les instruments qui m'intéressaient. Notamment, je me rappelle quand j'ai vu le vrai Rhodes pour la première fois. Et j'ai rêvé de cet instrument-là que mon père m'a promis, si je termine, ça commençait un peu à piocher avec l'école de musique parce que je voulais pas travailler. Donc j'ai arrêté une année, puis j'ai repris parce que mon père m'a donné comme carotte que si je termine, il va me acheter le Rhodes.
C'était cher.
C'était vraiment la classe moyenne. C'était pas des gens riches, mais voilà, des gens pour lesquels, ils avaient les moyens de d'éduquer les enfants. Voilà. Disons que chaque fois, mon père me disait, voilà, là, c'est la moitié de la nouvelle Yugo qui est partie pour ça, et l'autre moitié de la nouvelle Yugo, elle est partie pour, la Yugo, c'était la voiture que tout le monde avait. Donc voilà, il a investi plutôt dans nos instruments, plutôt que avoir une nouvelle voiture.
Entretien de Boyan Zedd, France Musique.
Alors, comment on passe au jazz? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce qu'il y a eu un saut? Il y avait le coffret ECM, soit, mais il y a eu d'autres choses.
Tout le reste. Alors, j'ai terminé mon école primaire, j'avais donc 14 ans, et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire par la suite. Et je suis parti pendant l'été au bord de la mer Adriatique. Ma tante, elle avait une petite maison, mais juste à 5 mètres de la mer. Elle m'a dit, ton père t'a inscrit à l'école de musique. Je dis, bon, mais pas piano, j'espère. Et la théorie et la contrebasse. Parce que mon père, il s'est renseigné quel instrument il a à la pénurie des musiciens. Ah, contrebasse, il n'y en a pas beaucoup, donc il va avoir de l'emploi. Et donc, j'ai dit, bon, voilà, pourquoi pas. À cette école-là, je me suis retrouvé donc entouré par les freaks, les vrais musiciens, des gars qui étaient un peu comme moi, qui pensaient qu'à la musique, etc., qui lisaient les partitions d'orchestre symphonique comme ça, comme s'ils lisaient un journal. Donc là, je me suis dit, oula, où est-ce que je suis arrivé là, c'est effectivement un monde à part. Et à l'issue de cette année-là, il y avait un prospectus où effectivement j'ai vu le jazz. Grožnjan, c'est un village qui est en Istrie, donc pas loin d'Italie, où il y avait les cours organisés par la jeunesse musicale yougoslave, les cours de jazz. Mais bon, c'était pas le mot jazz qui m'attirait, mais j'ai regardé keyboards. Et j'ai imaginé, je vais aller là-bas, il va y avoir et les Rhodes et les synthés, enfin le rêve, etc. Et donc je suis parti, j'ai demandé un financement, et puis je suis parti pour ce stage de jazz pendant l'été. Et donc le premier jour, je me rappelle, j'arrive, et ils nous partagent dans les chambres pour les pianistes, etc., etc. Et assez rapidement, Boschko, donc le chef de ce stage, il entre et dit « J'ai besoin d'un pianiste, il a la télé croate qui vient filmer quelque chose, j'ai besoin d'un pianiste. » Et là j'ai fait oh, « moi, direct !» Et donc, je pars dans une salle où il a écrit un blues en 2 secondes. Il l'appelait, je sais pas comment, blues de Grožnjan, quelque chose comme ça. Et puis, il nous a donné les partitions comme ça. Donc moi j'ai regardé, ok, assez rapidement, je savais de quoi il s'agit, vu que je jouais déjà le blues depuis pas mal de temps. Et je me rappelle, donc il a donné la partition bassiste, guitariste, et là le choc, il donne la partition batteur. Et là je vois ça, je me dis, batteur qui lit la musique. Et là je me dis, partition, d'accord. Et il a fait 1, 2, 3, 4, boum, la première lecture, ça sonnait déjà. Et là je me suis dit, c'est ça le jazz ? C'est génial ! Et en fait, voilà, c'est à cause de cette petite chose-là que j'étais encouragé. Il y avait ça, donc cette liberté-là, ne pas être avec les parents, des gens qui avaient vraiment cette passion pour la musique, les cours de voicing, etc. Donc c'était franchement la découverte d'un paradis. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'au retour, mes rêves d'enfance, c'est-à-dire les claviers avec les boutons en couleur, ont été remplacés par une simplicité qui était effectivement le piano. Il va falloir que je fasse un comeback vers le piano. Parce que je me suis rendu compte...
Ça vous a un peu réconcilié avec le piano,
tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est là que je me suis dit que je ne travaille pas pour les profs, mais je travaille pour moi. Ni pour mes parents, effectivement. Ouais.
Donc là, vous avez entre 14 et 15 ans.
C'est ça.
Un stage décisif.
Décisif.
Vous revenez à Belgrade et vous pensez que peut-être vous serez pianiste de jazz.
Oui. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. J'étais appelé assez rapidement par un quintet qui cherchait donc un pianiste. Ils ont entendu parler de moi... par ailleurs. Et donc, je viens à cette répétition-là, et puis...
Et quel répertoire, alors? Qu'est-ce Chet que vous
Baker.
Jouez?
Là, c'était effectivement le trompettiste en question, elle était complètement sous Chet Baker, donc My Funny Valentine, etc. Et à l'issue de cette répétition-là, je pars avec ma première cassette de jazz, qui était l'album Working Steaming with Miles Davis Quintet.
Et vous commencez à vous orienter... avec les voicings des accords, avec l'ordre des notes.
Tout à fait, mais c'est quelque chose que...
En écoutant cette musique-là, vous piquez, vous écoutez et vous reproduisez au piano.
Absolument, et c'est la première fois que je me retrouve dans un milieu où c'est même demandé, donc cette inventivité. Donc c'est le rôle qui m'était laissé, et j'étais complètement libre à coloriser comme je veux, selon les goûts des gars, parce qu'ils parfois me disaient non, pas, je joue pas ça... Là, c'est beaucoup trop, et puis écoute ce que je fais, ne joue pas les notes qui font le clash avec les miennes, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que définitivement j'ai décidé que c'est le monde de jazz qui me va, parce qu'il y avait cette liberté, et aussi, je commence à sentir le goût de l'aventure, de l'improvisation. C'est ça qui m'attirait vraiment.
Oui, vous commencez à commencer, donc.
Exact.
Ouais, à improviser sur une grille.
Aussi, décider de commencer... Donc faire les introductions des morceaux comme je veux, pourvu que ça a du sens. Donc il y avait des ratages, il y avait etc. Mais ce danger-là, effectivement, où on se lance dans le vide et puis pourvu qu'on sache nager, C'est ça qui m'a attiré. Et c'est ça qui me maintient dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 18 ans, j'étais à Belgrade, le pianiste numéro 2. Pas parce que j'étais très bon, mais parce qu'il y en avait un seul, quoi. Donc ça fait une belle différence. J'exagère, il y avait quelques personnages et quelques pianistes des années 60 et 70 qui ont été toujours présents. Mais disons que il y avait un pianiste très bebop, donc Bud Powell, point. qui jouait. Et donc, moi, j'étais assez rapidement le pianiste qui a eu tous les plans que lui ne faisait pas. J'ai arrêté l'école de musique. Je me suis organisé de telle manière, parce que j'étais en conflit avec les profs, au point où je ne pouvais plus les voir. Eux, ils ne pouvaient plus me voir non plus. Donc, j'ai arrêté la contrebasse aussi, après 3 ans et demi. Mais tout ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup servi par la suite, ça, définitivement. Et donc, je me suis complètement consacré à la vie nocturne et les clubs et les sessions, etc.
Et des clubs, il y en avait à Belgrade.
Il y en avait, et à Belgrade, et on a commencé, donc c'était toujours la Yougoslavie, donc le marché de 22 millions de personnes. Oui,
il y avait quand même Sarajevo, il y a Zagreb.
Sarajevo, il n'y avait pas de club. Il y avait Skopje, mais Skopje, je n'y étais jamais. Il y avait donc Zagreb, il y avait Ljubljana, il y avait Rijeka aussi, et puis voilà. Donc ça faisait quand même une petite tournée qu'on pouvait faire et jouer dans les clubs et donc découvrir ce que c'est être en tournée. Et en tout cas, dès qu'il y avait un concert ou où que ce soit, je prenais le train et puis je me déplaçais pour écouter. C'est comme ça que j'ai pu entendre quand même pas mal de monde. Chet Baker, je l'ai vu plusieurs fois, dans des situations assez intéressantes. J'ai vu Chet Baker jouer la batterie et le piano. Aussi lors d'un concert duo avec Philippe Catherine, c'était à Zagreb, c'était génial, un concert qui a duré 3 heures, etc., etc. Et donc je passais mes nuits avec Tony Scott, avec tous les gars qui circulent, parce que Tony Scott, il a clarinettiste, il est passé par Belgrade en 84 et il s'est dit oh it's nice here, puis il est resté pendant 2 ans, quoi. À ce moment-là, je suis vraiment complètement là dedans et je rêve de quoi? Je rêve de l'Amérique. Thank you.
Alors Boyan rêve de l'Amérique, ça s'entend avec cette Angelica qui est un souvenir d'Ellington. Et c'est pas si fréquent d'entendre Boyan Z enregistrer les standards. Demain, on le verra s'envoler pour Chicago, puis revenir en Yougoslavie avant de repartir pour la France. Et vous pouvez réécouter cet entretien sur francemusique.fr. Merci encore à Boyan Z, Gilles Blanchard, Arthur Gerbeau, Flora Sternadel, Yvan Amar.
À réécouter sur francemusique.fr.